Deutsche Welle, Économie et Développement.
Plus que 10 jours avant les élections législatives allemandes, la chancelière Angela Merkel, qui brigue un 4e mandat, a promis le plein emploi en 2025. Est-ce réaliste? Et qu'en est-il dans les nouveaux Länder de l'Est du pays où la situation économique est réputée plus difficile? On fera le point dans ce numéro. Et puis on parlera aussi du Mali qui s'attend à une bonne production céréalière pour la saison 2017-2018. Elle devrait être en hausse par rapport à la précédente et notamment grâce à une augmentation de la surface cultivable. Vous entendrez dans un instant notre correspondant à Bamako, Yaya Konaté.
À la périphérie de Bamako, les champs fleurissent d'espérance. L'hivernage avance à grands pas à la satisfaction des agriculteurs périurbains. Sanoussi Bouyassila en est un. Il exploite une superficie de 100 hectares à 35 km de la capitale malienne.
Sur 100 hectares de maïs, on calcule allègrement 6 tonnes par hectare, donc ça vous donne un petit calcul. Parce que nous avons arrêté ces campagnes avec les maïs hybrides. Nous travaillons sur les maïs qui sont faits ici maison au Mali, Sotubaka et autres. Donc on peut allègrement calculer entre 5 à 6 tonnes à l'hectare.
La campagne céréalière, au dire des producteurs périurbains, est donc prometteuse malgré une pluviométrie en demi-teinte au départ, mais qui donne aujourd'hui bien de motifs d'espérer. Sanoussi Bouyassila.
L'hivernage qui avait un peu commencé de manière bizarre avec des périodes sèches de plus ou moins longues commence vraiment à bien partir. Et aujourd'hui, si nous avons encore après aujourd'hui une cinquantaine de jours où il y a de la pluie, c'est bon. On pourra considérer vraiment que dans le périurbain de Bamako, on sera largement excédentaire.
Des excédents en céréales, c'est ce qui est attendu sur toute l'étendue du territoire national pour cette campagne agricole 2017-2018. Les objectifs de production sont de 9 820 000 tonnes, soit une hausse de 11% par rapport à l'année dernière. Encadrement des paysans, plus provoqué, semences améliorées, tous les moyens sont mis à contribution avec en plus une hausse de 5% des superficies cultivables. Tiaka Fofana, directeur national de l'agriculture.
Il y a les nouveaux aménagements qui ont été mis en exploitation. Il y a la question des équipements aussi qui a été améliorée. Vous savez bien que lors de la campagne passée, il a été mis à la disposition des producteurs 1000 tracteurs. Et ce programme ne s'est pas arrêté. Il y a des acquisitions en cours. Donc tout ça, ça permet aux producteurs d'aller un peu plus vite et de pouvoir réaliser les objectifs qui les sont assignés.
Des équipes de supervision dépêchées par la Direction nationale de l'agriculture font régulièrement le tour des champs pour s'enquérir du bon déroulement de la campagne. Et selon les techniciens, les indicateurs sont globalement au vert et les objectifs à portée de main. Tiaka Fofana, directeur national de l'agriculture.
Au niveau des emblavures, si nous prenons le maïs, nous sommes à 108% des prévisions que nous étions fixées. Au niveau du millet et du sorgho, nous avons presque atteint nos objectifs. Au niveau du riz de bas-fond, nous avons également dépassé nos objectifs. Le riz en maîtrise totale, qui est en tout cas un élément clé pour nous, aussi avance très bien. Nous sommes à 54%, mais nous sommes dans le calendrier. Les irrations sont en cours et nous espérons qu'en tout cas, il n'y aura pas de problème par rapport à ça.
Malgré l'insécurité qui sévit au nord du pays, les zones de production, assure-t-on ici, sont relativement épargnées. Et même une mauvaise campagne agricole dans ces zones n'est pas censée avoir une forte incidence sur la production nationale. Mambi Koulibaly, coordinateur du système d'alerte précoce.
Le poids même du nord dans le global n'est pas important. Une campagne peut être mauvaise au nord, mais de façon générale, et avoir une production qui augmente. Ça, ça dépend un peu du faible poids de la production du Nord dans le total global.
Si la situation sécuritaire donne quelques sueurs froides aux responsables en charge de l'agriculture, c'est bien au centre du pays avec l'Office du Niger qui constitue une des plus importantes zones de production céréalière du Mali. Tiaka Fofana, directeur national de l'agriculture.
La moto est considérée pour nous comme un outil de travail, un outil agricole. Mais avec la situation sécuritaire, le déplacement à moto n'est plus autorisé dans beaucoup de zones, à juste titre, parce qu'il faut le reconnaître. ces motos sont utilisées pour faire beaucoup de mal. Donc, quoi qu'on fasse, on pense que ça n'impacte pas beaucoup, mais il y a déjà, les gens sont là, ils ne sont pas trop tranquilles. Quel que soit le fait, il y a un petit hic à ce niveau, donc ça va impacter un tout petit peu.
Producteurs et techniciens sont unanimes cependant, les perspectives de la production céréalière au Mali sont plus que bonnes, le pays disposant de nombreux atouts en la matière. Sanoussi Bouyassila, agriculteur périurbain.
Historiquement, on appelait le Mali le grenier de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêche de redevenir encore une fois le grenier de l'Afrique de l'Ouest? Rien n'a changé. Nous avons toujours les mêmes terres, la pluviométrie est là. Et en plus, la technologie a augmenté. Nous bénéficions d'excellents chercheurs dans nos stations de recherche, Sotuba, IIR, Katibou.
Des progrès restent à faire cependant dans le cadre de la professionnalisation des agriculteurs et de l'organisation du monde paysan. Deux leviers qui permettront de faire face à la question des aménagements, mais aussi de relever les défis liés à la commercialisation des céréales, cette autre étape de la campagne qui débute après la récolte. Yaya Konaté à Bamako pour la Deutsche Welle.
L'Allemagne fait des envieux en Europe. Le chômage était au mois d'août à un niveau historiquement bas, 5,7%. La santé du marché du travail est un bon argument pour sa réélection, selon la chancelière Angela Merkel, qui espère remporter un quatrième mandat d'affilée. Le nombre de chômeurs a été divisé par deux depuis 2005 pour atteindre environ 2,5 millions de personnes. Et la dirigeante a promis le plein emploi pour 2025, c'est-à-dire un taux de chômage sous les 3%. Est-ce possible? C'est la question que j'ai posée à Hans Stark, secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes.
Je pense qu'on se dirige vers le plein emploi. Alors est-ce que c'est 3% ou 4%? Donc des économistes estiment qu'à partir de 4%, on est déjà dans une situation de plein emploi. Plusieurs facteurs, à savoir la qualité de l'industrie allemande et le label Made in Germany qui fonctionne très bien. Le déficit démographique aussi qui fait que l'arrivée sur le marché du travail de jeunes est moins importante qu'ailleurs. La qualité de la formation des jeunes qui fait aussi que les jeunes trouvent du travail facilement. Tout ça crée une situation qui est très favorable à l'emploi.
Il y a tout de même un envers du décor du marché du travail allemand. Si la chancelière se félicite de compter 44 millions d'actifs dans le pays, il y a encore plus d'un million de chômeurs de longue durée, c'est-à-dire au-delà d'un an d'inactivité. Selon une étude de l'Office fédéral de la statistique, plus de 7 millions de travailleurs occupaient des activités dites atypiques en 2016, soit une hausse de 121 000 sur un an. Cela concerne les mini-jobs à 450 € par mois, les emplois intérimaires, contrats à durée déterminée ou encore les emplois à temps partiel de moins de 20 heures par semaine. De plus, l'Allemagne compte plus de 3 millions de travailleurs indépendants qui ne sont pas concernés par l'introduction d'un salaire minimum. C'était en janvier 2015. 900 000 retraités sont aussi obligés de travailler pour compléter leur pension trop faible. Mais Hansel, professeur à la Sorbonne et spécialiste des questions familiales en Allemagne, estime que ces chiffres cachent une réalité plus complexe, en particulier pour deux catégories de femmes.
On a vraiment une explosion du taux d'emploi des seniors, plus de 70% de taux d'emploi des seniors. Ça s'explique par le temps partiel. Ce sont des femmes qui ne veulent pas du tout un temps plein. Elles ont été prêtes à prendre un emploi parce qu'il est à temps partiel. Et le deuxième groupe chez les femmes qui a vu son taux d'emploi augmenter de manière significative, c'est les mères. Et là encore, c'est du temps partiel. Plus de 70% des mères d'enfants mineurs travaillent à temps partiel en Allemagne. C'est un choix délibéré. Appeler ça de la précarité, ça me paraît pas correspondre. Ce sont des femmes qui, il y a 20 ans, n'auraient pas travaillé. Donc, on va avoir effectivement une amélioration de leur situation économique par cet emploi, même s'il est à temps partiel. Alors évidemment, le problème quand même que soulève le nombre d'emplois précaires en Allemagne, c'est-à-dire faiblement rémunérés, ce serait, je dirais, presque moins la situation présente que la situation une fois l'âge de la retraite atteint. On a vraiment un gros risque de pauvreté à la retraite, lié évidemment au temps partiel, lié au mini-job d'une manière générale. Vous savez, deux tiers des mini-jobs sont détenus par des femmes.
Et la professeure de souligner que selon l'étude annuelle sur ce qui fait peur aux Allemands, publiée récemment, la crainte de la pauvreté arrive à la deuxième place devant le chômage. Une autre particularité du paysage économique allemand, c'est l'ancienne partition du pays, l'ex-Allemagne de l'Est et celle de l'Ouest. Depuis la réunification, il y a un quart de siècle, des efforts financiers ont été faits pour tenter de faire rattraper le retard de l'ex-RDA par rapport à la RFA. Mais des disparités existent toujours. Aucun des 30 principaux groupes allemands cotés en bourse n'est basé à l'Est. Les salaires sont aussi moins élevés et la productivité est réputée plus faible en ex-RDA. Mais Ansal rappelle aussi que dans cette partie du pays, le coût de la vie est aussi moindre.
Par exemple, concernant l'immobilier, même Berlin reste une capitale relativement peu chère dans la comparaison européenne. C'est vrai que les salaires restent en dessous. Quand même, je pense qu'il faut peut-être un peu nuancer, c'est que désormais, le taux de chômage le plus bas et le taux de chômage le plus haut, c'est à l'Ouest. Le taux de chômage le plus élevé est à Brême. Alors évidemment, c'est le phénomène ville-État. Hein. Ce sont des villes qui concentrent en général plus de pauvreté, plus de chômage. Mais on va avoir des taux de chômage en dessous de 7% dans certains Länder de l'Est, hein, comme la Thuringe par exemple. Donc c'est quand même vraiment en train de baisser. Et ce sont des taux qui pour part sont inférieurs à certains Länder de l'Ouest, hein, comme la Rhénanie du Nord-Westphalie. Si vous regardez en détail les chiffres, vous verrez que ce n'est plus une opposition Est-Ouest comme on l'a connue dans les années 90. On a plus une opposition nord-sud.
Il y a donc des exceptions. La ville d'Iéna en Thuringe est réputée pour ses chercheurs et ses entreprises high-tech. Cette ville allemande est une des quelques réussites économiques de l'ex-RDA. Mercedes-Benz investit des millions d'euros à Ludwigsfeld dans le Brandebourg. BMW a une usine ultra-moderne à Leipzig. Et les studios Babelsberg à Potsdam, près de Berlin, accueillent des super productions internationales. Alors si la Bavière caracole en tête des taux de croissance aux côtés du Bade-Württemberg dans le sud du pays, les nouveaux Länder comme la Thuringe et le Brandebourg affichent peu à peu de bonnes performances économiques. Si vous voulez réentendre ce magazine économie et développement, allez sur notre site dw.com/français, puis la rubrique médiathèque. C'était Claire-Marie Kostmann au micro. Merci et à la semaine prochaine.